Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. République centrafricaine, l'ONG, groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine, GTSC, a demandé ce jeudi aux autorités centrafricaines de porter à la connaissance du peuple l'accord de paix conclu samedi à Khartoum au Soudan, paraphé mardi dans la capitale soudanaise et signé mercredi à Bangui, sans que son contenu ne soit dévoilé. Dans son communiqué à ce sujet, le GTSC justifie sa requête par la nécessité de porter à la connaissance du peuple les clauses de l'accord de Khartoum, afin que les Centrafricains soient rassurés de ce que leurs préoccupations aient été prises en compte. À défaut, le GTSC appelle le peuple centrafricain à descendre massivement dans la rue pour exiger de l'élite dirigeante la publication de l'accord, ajoute le texte. La réponse du gouvernement centrafricain, on ne peut pas publier un document avant que tout le monde ait signé, a déclaré Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Il reste encore 3 signatures à apposer, a précisé le ministre sans les identifier, en ajoutant que cela devrait se faire lors du prochain sommet de l'Union africaine les 10 et 11 février à Addis Abeba en Éthiopie. L'accord ne sera publié qu'après, selon M. Kazaghi. Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta a proposé hier son aide pour amener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une visite à Nairobi du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Nous allons continuer à vous aider à atteindre la paix et la stabilité parce que nous avons une expérience similaire à la vôtre que nous pouvons vous faire partager, a déclaré Uhuru Kenyatta. Il a assuré son homologue congolais avoir tiré les leçons de la crise politique née de la contestation de sa réélection en 2017 par l'opposant Raila Odinga qui avait fait plus de 90 morts. Les deux hommes ont depuis promis d'œuvrer ensemble pour la réconciliation dans le pays. Le Kenya se dit prêt à aider à former les fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenariats en matière de construction d'infrastructures et dans l'industrie minière. Félix Tshisekedi a entamé sa première tournée à l'étranger en tant que chef d'État par l'Angola. Après le Kenya, deuxième étape de sa visite, il doit se rendre au Congo-Brazzaville.
Toujours concernant la RDC, Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dans le pays, a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Monsieur Fayulu, qui conteste toujours les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle congolaise, s'est autoproclamé président légitime de la RDC et a appelé à la résistance pacifique. Edi Sango a joint Fidel Babala, le porte-parole de la coalition Lamuka qui a soutenu Martin Fayulu.
Nous avons déposé effectivement une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour réclamer la vérité des urnes. La question qui se pose, c'est une question fondamentale de principe. À quoi servent les élections si la population, le peuple qui est le souverain primaire, s'exprime dans un sens et que finalement on attribue le voix à quelqu'un d'autre? Je viens de suivre les premiers points de presse du nouveau président désigné et nommé par Joseph Kabila à l'issue de sa visite à Luanda. Il réclame qu'on lui apporte des preuves. D'abord, c'est une méconnaissance du système judiciaire, c'est pas à lui qu'on doit apporter des preuves. Et puis, c'est une façon de pouvoir renverser la charge de la preuve, que lui démontre qu'il a gagné les élections, qu'il leur donne, la CENI, de pouvoir publier les résultats bureau par bureau, province par province, comme ça on saura qui a gagné. Si cela n'est pas fait, je crois que c'est juste une communication qui est faite pour des personnes qui sont totalement analphabètes. La question, c'est de pouvoir faire respecter l'expression du vote populaire. Nous avons introduit une requête dans ce sens-là. Nous espérons, avec la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a déjà eu à examiner ce genre de situation, que cette jurisprudence sera constante et elle sera respectée.
Mais c'est vous qui avez saisi plutôt la Cour constitutionnelle, c'était à vous d'apporter des preuves.
Nous avons apporté des preuves, des sacs et des sacs de procès-verbaux, mais ces preuves n'ont jamais été examinées par la Cour constitutionnelle. Quand je parle du renversement des charges de la preuve, c'est par rapport à la communication du président nommé à Luanda, qu'il attendait qu'on lui amène la preuve de notre victoire aux dernières élections. Pour asseoir sa légitimité. La question n'est pas là, c'est à lui de pouvoir donner des instructions pour qu'on puisse finalement donner les résultats de la compilation. La compilation n'a jamais eu lieu. De quoi on parle là? Pour la Cour constitutionnelle et la RDC, nous savons ce qu'il en est. Ils ont refusé de dire les droits, c'était un déni des droits. Et maintenant, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Est-ce que vous ne craignez pas que votre requête ne soit pas peut-être prise en considération si on tient en compte la déclaration du secrétaire général de l'ONU qui dit que ce qui s'est passé au Congo s'est passé et la situation est établie, il faut plutôt maintenant coopérer avec le nouveau président.
Là, vous êtes en train de me dire que ça ne sert à rien qu'il y ait une démocratie dans ces pays. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'organiser les élections dans ces pays. Que tout le monde peut déclarer un arrangement entre deux individus, on déclare que la situation est telle, tout le monde doit se taire. Ça sert à quoi alors d'avoir une démocratie? Le même secrétaire général des Nations Unies, il est pour le Portugal.
Le nouveau président qui effectue déjà son premier voyage bénéficie déjà des soutiens de beaucoup de pays et d'institutions. Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir à l'arrière?
Le peuple congolais a exprimé un vote de manière tout à fait claire. Si les gens refusent de prendre en compte ce vote-là, je crois qu'il y a un déni de démocratie quelque part.
Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du mouvement pour la libération du Congo et porte-parole de la coalition Lamuka en RDC.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique de l'Ouest, la justice béninoise a condamné aujourd'hui à 10 ans de prison ferme les principaux responsables de la gigantesque escroquerie de l'ICC Services, baptisée l'affaire Madoff béninoise, le plus gros scandale financier jamais enregistré dans le pays, qui a touché plus de 150 000 personnes. Le PDG d'ICC Services, Guy Aplogan, son directeur général Ludovic Dohou, ainsi que deux de leurs collaborateurs, ont été reconnus coupables d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance dans ce procès historique et très attendu des victimes. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 février selon le calendrier prévu. C'est ce qu'a assuré mercredi le ministre sénégalais de l'Intérieur. L'ex-chef de l'État, Abdoulaye Wade, avait lancé un appel à la population pour l'exhorter à s'opposer pacifiquement à la tenue de ce scrutin. Raissa Girondin.
Je pense que c'est des propositions d'hommes politiques et que le scrutin aura lieu, d'après le ministre Aline Gouindiaye. Il a aussi indiqué que l'acheminement du matériel électoral dans les 14 régions a débuté et que tout ce matériel sera à destination d'ici le 9 février. Mardi, dans une vidéo enregistrée à Versailles en France, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade avait appelé la population à s'opposer à la tenue d'une élection qui, selon lui, est entièrement fabriquée dans le seul but de faire réélire le président sortant Macky Sall. Maître Wade, 92 ans, a dénoncé l'élimination de la course à la présidence de son propre fils, Karim Wade, et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, tous deux frappés par des condamnations judiciaires.
On passe à l'actualité aux États-Unis maintenant. La Banque mondiale se cherche un nouveau président après la démission surprise de Kim Jong-un début janvier. Alors que le dépôt officiel des candidatures s'ouvre ce jeudi, la Maison-Blanche a présenté hier son candidat. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
David Malpass, sous-secrétaire au Trésor et chargé des affaires internationales depuis septembre 2017, a été désigné candidat officiel de la Maison-Blanche pour diriger la Banque mondiale. « C'est un grand honneur », a réagi M. Malpass. Ce membre loyal de l'administration Trump est un farouche critique de l'institution qu'il n'hésite pas à décrire comme inefficace et dépensière. Selon une règle tacite, le poste de président de la Banque mondiale revient à un candidat américain, alors que la direction du FMI revient à un Européen. La Banque mondiale lance officiellement les candidatures aujourd'hui jeudi. Les autres candidats représentant d'autres États membres n'ont pas été révélés. Parmi les noms régulièrement cités, l'ancienne ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et l'ancienne ministre nigériane des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, déjà candidate en 2012. Les prétendants ont jusqu'au 14 mars pour déposer leur dossier. Et le nom du nouveau président sera annoncé d'ici la mi-avril.
Et pour terminer, le Canada compte accueillir quelques 750 personnes victimes d'esclavage en Libye d'ici 2 ans. 150 d'entre eux ont déjà obtenu l'asile dans ce pays nord-américain. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre fédéral canadien de l'immigration. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.